Bonsoir et bienvenue dans cette émission. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi dans la soirée la proposition de loi portant organisation du référendum en RDC. Initié par le député Paul Gaspard Ngonankoy, le texte a été approuvé par 348 députés sur 351 votants en l'absence des élus de l'opposition qui ont décidé de boycotter les travaux relatifs à cette loi, dénonçant un coup d'État institutionnel. Ce texte encadre la convocation du référendum par le président de la République, son organisation par la CENI ainsi que les règles des campagnes, des dépouillements et des contentieux. Il prévoit également la possibilité d'une assemblée constituante élargie en cas de projet de nouvelle constitution. Outre les sénateurs et députés nationaux, cette instance pourrait inclure les députés provinciaux, les gouverneurs de province et les conseillers municipaux. Après son adoption par la Chambre basse, la proposition de loi portant organisation du référendum en RDC est transmise au Sénat pour une seconde lecture et en cas d'adoption dans les mêmes termes, la loi adoptée pourra être soumise au président de la République pour sa promulgation. Que pensez-vous de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi sur l'organisation du référendum en RDC? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Patrick Matata Makalamba. Il est professeur député national élu de la ville de Kisangani de la province de la Tchopo. Il est également cadre de l'UDPS, parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir professeur Patrick Matata Makalamba.
Bonsoir monsieur Guimaté, bonsoir à mes co-débatteurs et à tous les auditeurs de notre radio bien-aimée Radio Capitale.
Et également ici au studio, Émile Assani, il est député national élu de Kindu sur la liste LGD, parti de l'opposition dont Matata Pognon est le leader. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Matete. Bonsoir honorable Émile Assani.
Bonsoir monsieur Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi et bonsoir à tous mes co-débatteurs.
Et Alidor Tshibanda, il est docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'université pédagogique nationale IPEN. Il s'intéresse à l'État et à la démocratie. Bonsoir professeur Alidor Tshibanda.
Bonsoir monsieur Guy Maté, bonsoir très chers honorables députés nationaux qui vont débattre avec nous ce soir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, adopté mardi par l'Assemblée nationale en l'absence des députés de l'opposition, la proposition de loi sur l'organisation du référendum initiée par le député Paul Gaspard Ngonankoy poursuit désormais son parcours au Sénat. Présenté par ses promoteurs comme un texte destiné à combler un vide juridique hérité de la transition, cette réforme est dénoncée par les opposants comme une porte ouverte à un changement de la Constitution. Quelles sont les principales innovations apportées par cette loi et pourquoi suscite-t-elle autant de controverses? Éclairage avec Grâce à Mouzati, notre permanent au Parlement.
Pour son initiateur, cette proposition de loi vise avant tout à moderniser l'encadrement juridique du référendum en RDC. Jusqu'à présent, celui-ci est régi par une loi datant de 2005, adoptée durant la transition et jugée inadaptée aux réalités institutionnelles actuelles. Le nouveau texte précise les conditions de convocation du référendum, son organisation par la CENI ainsi que les règles des campagnes, des dépouillements et des contentieux. Il distingue quatre types de référendums. La révision de la Constitution, le transfert de la capitale, les questions liées aux frontières et à l'étendue du territoire national, ainsi que les matières non prévues par la Constitution. Mais ce sont surtout les dispositions relatives aux questions constitutionnelles qui alimentent la controverse. Le texte prévoit qu'en cas de dysfonctionnement majeur des institutions, le président de la République peut mettre en place une commission chargée d'identifier les dispositions constitutionnelles jugées inadaptées. Si un changement est envisagé, un projet peut alors être soumis au Parlement réuni en Assemblée constituante. Cette instance sera élargie aux députés provinciaux, gouverneurs et conseillers municipaux, en plus des sénateurs et députés nationaux. Ces projets de changement constitutionnel devraient être adoptés à la majorité des 3/5 avant d'être soumis au référendum. Pour la majorité, il s'agit simplement d'encadrer juridiquement un mécanisme prévu par la Constitution et de renforcer la démocratie directe. L'opposition, elle, estime que les textes accordent un rôle excessif au président de la République et pourraient faciliter un changement constitutionnel. Adoptée par l'Assemblée nationale, la proposition de loi est transmise au Sénat pour une seconde lecture avant une éventuelle promulgation par le président de la République.
Merci à vous, Grâce à Mouzati. Je rappelle que vous êtes notre permanent au Parlement. Patrick Matata Makalamba, vous êtes professeur et député national élu de la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Vous êtes également cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Et quel sens vous donnez à cet acte que vient de poser l'Assemblée nationale, l'adoption de la proposition de loi sur l'organisation du référendum en RDC?
Merci beaucoup de la question. Nous sommes en train de connaître ici une consolidation de la démocratie. Ça va de soi parce que les partis majoritaires ou les partis de tête de file de la majorité actuelle s'appellent l'Union pour la démocratie et le progrès social. Notre initiateur, le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, avait bien dit lorsque l'UDPS sera au pouvoir, l'UDPS prendra les précautions nécessaires pour avoir une constitution qui est adaptée aux conditions, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Mais ici, nous sommes en train de parler de la loi qui fixe les conditions d'organisation du référendum en RDC. Vous vous souviendrez que la constitution actuelle en vigueur, celle du 18 février 2006, est le fruit du référendum du 18 au 19 décembre 2005. Donc, c'était le peuple congolais qui était convoqué au référendum. Le Parlement de la transition de l'époque, après consultation de la société civile, moi-même j'étais à l'université, j'ai vu les acteurs politiques défiler, on a discuté, et puis il y a eu une mouture qui a été soumise au référendum finalement. Aujourd'hui, la dite constitution, dans son article 5, l'article constitutionnel de 2006, dans son article 5, dispose exactement ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. L'alinéa 3 dit « La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum ». Donc, en adoptant cette proposition de loi, l'Assemblée nationale ne fait qu'appliquer une disposition qui existe déjà dans la constitution en vigueur. Donc, le fait de remettre le pouvoir au peuple, c'est de vouloir effectivement consolider la démocratie. C'est l'essence que nous accordons à la présente proposition de loi ou à la présente loi à venir.
Voilà, dans ces reportages de notre permanent au Parlement, Gassamzati, il est dit que cette proposition de loi distingue quatre types de référendums, à savoir la révision de la constitution, le transfert de la capitale, les questions liées aux frontières et à l'étendue du territoire national, ainsi que les matières non prévues par la Constitution. Lorsque vous parlez, honorable Matata, lorsque vous parlez des matières non prévues par la Constitution, on sent une certaine ambiguïté. Il s'agit de quelles matières?
Effectivement, l'article 41 de la proposition de loi parle de dysfonctionnement. Nous sommes en République démocratique du Congo. On fixe des règles, c'est suite à un paradigme pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et la constitution de 2006 a été élaborée pour atteindre l'objectif d'avoir la stabilité des institutions, pour avoir la prospérité économique. Bon, si vous consultez l'évolution de cette constitution pour les deux décennies ici, vous allez voir qu'effectivement, il y a des problèmes que nous constatons. Après chaque élection, il y a des contestations, que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, en 2018, en 2023, il y a des contestations. Lorsque vous regardez le fonctionnement des institutions, vous verrez que la nomination du Premier ministre traîne, la collaboration par moi, ça pose problème. Vous verrez au niveau des institutions politiques provinciales, une instabilité chronique, soit des bureaux, soit des gouverneurs de provinces, tout ça. Et la mission qui était assignée notamment aux provinces pour qu'elles soient les centres d'impulsion et développement à la base, on sent que ça ne vient pas. Donc, ce sont des dysfonctionnements. Lorsque il y a ce genre de questions, la loi prévoit que les chefs de l'État, jouissant de ses prérogatives dans l'article 69 de la Constitution, peut recueillir des avis auprès d'experts et que ces avis, si ils conduisent à l'élaboration d'un nouveau cadre institutionnel, évidemment, une assemblée constituante peut être convoquée afin d'établir sur la question. Et comme vous savez, vous le savez bien, l'assemblée constituante, c'est toujours ces groupes de personnes, n'est-ce pas, qui se réunissent pour soit adapter une constitution, soit pour prendre une nouvelle constitution afin d'avoir un paradigme qui permette à la situation de s'adapter un peu plus mieux à la situation actuelle du pays.
Et s'il y a effectivement dysfonctionnement majeur, n'est-ce pas, comme vous le dites dans ces textes, mais que cela n'est pas lié, n'est-ce pas, au texte des lois, mais plutôt à la mauvaise gouvernance, mais qu'en dépit de cela, le chef de l'État convoque quand même cette commission pour, n'est-ce pas, décider sur les dispositions inadaptées. Vous ne pensez pas que là, vous n'êtes pas en train de régler les problèmes de fond? Parce que les dysfonctionnements que vous avez constatés n'étaient pas liés au texte des lois, mais c'était lié à une éventuelle mauvaise gouvernance.
Mais la gouvernance en question est encadrée par les textes. Et lorsque on voit que les textes ne permettent pas d'avoir cette bonne gouvernance, effectivement, il faut également adapter les textes.
La mauvaise gouvernance peut aussi être liée aux individus, n'est-ce pas?
Bien sûr, on peut avoir des cas où il y a des défaillances et effectivement la nouvelle constitution, si l'ancienne ou bien si les anciennes dispositions n'ont pas permis de bien encadrer les faiblesses humaines, il faut qu'il y ait un cadre normatif qui permette d'encadrer les faiblesses humaines et de les minimiser.
Il a dit que dans les textes qui ont été adoptés hier à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup d'ambiguïté. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses?
Bon, il appartient à ceux qui disent qu'il y a beaucoup d'ambiguïté de les énumérer. Nous n'avons pas pu identifier les ambiguïtés en question. J'ai suivi cette loi moi-même, j'ai déposé des amendements à la commission PAJ, on est allé à la plénière. Donc, vous savez, le processus d'élaboration d'une loi suit quand même un certain cheminement. C'est très important pour nos compatriotes congolais de fournir l'effort, de prendre la proposition de loi, pour le projet, s'il y en a, et de venir. Les travaux à la commission, on peut les recevoir, à la plénière aussi, c'est public. Donc, lorsqu'on s'intéresse à la question, c'est vraiment bien de venir au lieu de rester au loin et de rester dans les domaines de procès d'intention.
Alors, après cette adoption à l'Assemblée nationale, peut-on dire que les dés sont jetés? Qu'on est maintenant dans une démarche qui vise à doter les pays d'une nouvelle constitution?
Cela est une possibilité, ce n'est pas l'objectif majeur de la présente loi. La loi vient combler un déficit. On a déjà pris en 2006 la loi pour organiser les élections. Il fallait également prendre une loi pour organiser le référendum. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais seulement dans les matières à prendre, il y a cette ouverture, si le peuple le veut bien. Et vous voyez, le référendum, c'est effectivement le peuple, c'est les souverains primaires. Tous les démocrates ne vont pas refuser la consultation du peuple. Consulter le peuple, c'est effectivement ça, la démocratie.
Merci, Emile Hassani. Vous êtes député national élu de Kindu sur la liste LGD, parti de l'opposition dont Matata Ponyo est le leader. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Que pensez-vous aussi de l'adoption par l'Assemblée nationale de cette loi sur l'organisation du référendum en RDC?
Merci beaucoup, M. Guy Maté. Pour nous, du LGD, au LGD donc, en tant que parti politique, sur la liste duquel je suis inscrit, nous pensons que nos frères de l'Union Sacrée ont porté un coup fatal à l'ordre constitutionnel établi.
À quel niveau?
La Constitution, il faut dire, depuis l'adoption de cette Constitution, les matières relatives à l'organisation du référendum n'étaient pas définies, n'étaient pas fixées. Et que nous sommes d'accord, l'honnêteté scientifique l'oblige, il fallait doter les pays d'un texte juridique pour combler ces vides-là. Ça, nous sommes bien d'accord.
Donc la démarche, elle est justifiée. On peut la justifier.
La démarche, elle est prévue dans la Constitution, mais malheureusement, il s'observe que l'aboutissement, la procédure suivie et son aboutissement sont anticonstitutionnels.
Mais qu'est-ce qui vous gêne exactement?
Et c'est là où nous devons clarifier la population à travers les antennes de la radio Okapi.
Allez-y.
Monsieur Guy Maté, les constituants originaires ont voulu que les matières qui concernent la consultation du peuple sur les référendums soient prévues par la Constitution. C'est comme ça que vous avez trois dispositions qui prévoient les matières qu'on peut soumettre à la consultation populaire par la voie du référendum. C'est notamment l'article 2. Lorsque vous lisez l'article 2, les constituants, le peuple congolais a décidé que, en ce qui concerne la capitale, lorsqu'on veut transférer la capitale d'une ville à une autre, on soumet cette matière au référendum. Deuxième disposition constitutionnelle, c'est l'article 214 qui prévoit, lorsqu'on prévoit des scénarios, hein, on peut arriver à la jonction du territoire, tout comme on peut céder une partie de notre territoire national, que cette question, au vu de son importance, soit soumise à la consultation populaire par la voie du référendum. Et le dernier article de la Constitution qui prévoit la matière à soumettre au référendum, c'est la révision constitutionnelle. Et là, on prévoit les différents initiateurs de la révision constitutionnelle. Et les constituants veulent que cette question-là soit soumise à la consultation populaire par la voie du référendum. Mmh. Ça voudrait dire que lorsqu'on veut combler ces vides juridiques, par un texte qui doit fixer les conditions d'organisation des référendums,
on doit rester dans ces matières.
On se conforme à la volonté de notre constitution.
N'est pas aller en dehors de ces trois matières.
N'est pas aller en dehors de ces trois matières. Je précise que ces matières sont constitutionnelles. Maintenant, lorsque vous prenez cette proposition de loi controversée, qui est d'ailleurs déjà adoptée par l'Assemblée nationale, et je signale que ce soit l'ensemble pour la République, comme parti de l'opposition, et nous, LGD, parti de l'opposition, nous avions claqué la porte. Parce que nous n'avions pas voulu assister et être complices à un plan macabre que nous considérons contre la République. Alors, j'étais en train de dire que j'ai énuméré les matières bien prévues par la Constitution, les matières qu'on peut soumettre à une consultation populaire. Maintenant, lorsque vous lisez cette disposition, et disons cette proposition de loi, ou cette loi...
La version adoptée par l'Assemblée nationale,
elle va au-delà. Elle va au-delà en préconisant, à son article 4, lorsque vous lisez l'article 4 de cette proposition de loi, elle prévoit que toute matière, je dis bien toute matière, sans exception, peut être soumise à la consultation populaire par la voie du référendum.
Toute matière non prévue.
Toute matière, et puis précise, non prévue par la Constitution. Et là, les législateurs que nous sommes, nous quittons nos fonctions ou nos prérogatives constitutionnelles, nous allons au-delà. Parce que nous, nous n'avons pas la mission d'élaborer la Constitution, de modifier la Constitution, ou encore de l'interpréter. Voyez-vous ? Il y a des organes bien appropriés, bien habilités à interpréter la Constitution, à élaborer la Constitution. Il ne revient pas à un député national ou au Parlement de s'arroger des prérogatives qui ne lui sont pas pourvues par la Constitution.
Vous êtes de la commission PAJ, vous avez certainement à travailler sur cette proposition de loi. Et lorsqu'il y a de telles dispositions ambiguës, vous ne posez pas la question aux initiateurs ou à l'initiateur?
Ce n'est même pas des propositions ambiguës. Quand vous dites ambiguës, c'est-à-dire des dispositions qui ne sont pas comprises.
Oui, quand on dit
ici,
toute matière non prévue,
il s'agit,
on ne précise pas.
C'est pas ambigu. Mm-hmm. Il s'agit des dispositions anticonstitutionnelles. J'ai cité la première disposition. La deuxième disposition, on pouvait lire les articles 41, 42, 43, 44. Et là, c'est clair. On prévoit les changements de la Constitution. Donc, une loi ordinaire qui prévoit que à travers elle, on peut changer la Constitution. C'est ça qui est dû. C'est l'économie générale. Et là, vous comprenez que nous quittons pratiquement les sphères de la Constitution. Nous devenons dans un terrain de non-droits.
Et donc, au-delà de la démarche officielle qui est celle de combler les vides, au-delà de cela, il y a cette intention de changer la Constitution.
Mais c'est Guy Maté. L'honorable Matata, lorsqu'il a pris parole, il vous a dit qu'ils avaient
un testament.
Non,
il y a possibilité.
Il vous a dit qu'ils ont un testament. Les fondateurs.
Il l'a rappelé, ça
oui. Ah oui. Et là, il avait donné. Hein, il se considère comme si c'était leur parcelle personnelle, un bien de l'UDPS. Et que les fondateurs a dit non, écoutez, à ma mort, après, vous allez doter le pays d'une nouvelle constitution. Mais ce qu'il a oublié, il a oublié aussi de citer les faits référence au chef de l'État. Plusieurs sorties médiatiques du chef de l'État, à l'entame déjà de son second mandat, il avait dit, qui êtes-vous pour m'empêcher, moi, de réfléchir sur la révision constitutionnelle? Et dernièrement, il venait de dire que si le peuple, lui, n'a pas besoin de briguer un troisième mandat, mais si le peuple les lui propose, il sera partant. Et que lorsque vous prenez le testament laissé par les pères fondateurs de la République, parce que pour eux, l'UDPS, c'est ça la République. Et lorsque vous prenez les sorties médiatiques du chef de l'État, il n'y a pas d'ambage que la volonté est de doter la République d'une nouvelle constitution.
Bon, on rappelle
mais
que vous
malheureusement...
Avez, vous avez eu à travailler dans la commission PAJ, n'est-ce pas, sur le texte. À quel moment vous avez décidé de quitter, de boycotter les travaux dans la commission?
Personnellement, je n'ai pas boycotté les travaux au niveau de la commission PAJ. Parce que la commission PAJ...
Alors, vous avez plutôt boycotté la plénière d'hier.
Et effectivement, non seulement la plénière d'hier, la plénière du 25, parce que le 25 mai... La commission PAJ devait présenter les rapports à la plénière. Mmh. Et lorsque la commission PAJ a présenté son rapport, nous, en tant que députés de l'opposition, connaissant ce que contenaient ces fameux rapports, on ne pouvait pas assister à cette messe-là. C'est comme ça que nous avions claqué la porte.
Et donc,
on a réaligné la loi à la plénière d'hier. Mmh. Personnellement, j'ai encore claqué la porte et j'ai fait une déclaration forte au nom et pour le compte de notre parti politique qui est le LGD. Comme j'étais en train de dire, M. Guy Maté, c'est une question technique, mais facile à comprendre. Donc j'aimerais me mettre au niveau des auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Allez-y.
Pour dire facilement que nous avons un vide juridique. Les collègues qui a pensé combler ce vide juridique n'a pas tort. Mais il a tort et les députés de l'Union Sacrée ont tort lorsqu'ils ont prévu des dispositions qui vont au-delà de la Constitution et par ricochet qui violent manifestement la Constitution. Dans le sens où cette loi prévoit les changements de la Constitution. Je vous ai cité les articles, lisez l'article 4, lisez l'article 41, 42, 43, vous allez comprendre que on peut changer la Constitution par une loi. Si déjà, M. Guy Maté, on ne peut pas par une loi, un député national, lorsque vous lisez la Constitution, un député national ne peut pas prendre une loi qui révise la Constitution. Je voulais dire que nous, députés nationaux, lorsque nous soumettons nos propositions de loi, c'est sur base de la Constitution. C'est-à-dire, lorsque je vais légiférer dans un domaine quelconque, je dois d'abord avoir une disposition constitutionnelle qui me permet de légiférer dans ce domaine-là. Et ici, c'est un député national qui légifère dans un domaine de changement de la Constitution.
Ah donc là, il n'est plus dans la Constitution.
Il n'est plus dans la Constitution.
Il est sorti de la Constitution.
Il n'est plus dans la Constitution. Je suis en face d'un député de l'Union Sacrée, de surcroît membre de l'UDPS.
Et alors, à la Commission, vous n'avez pas relevé ce genre de...
On a relevé ça. Écoutez, la Commission PAJ, nous sommes, je crois, près de 58-60 députés nationaux. Les opposants, nous ne sommes qu'à deux. Il y a moi, du LGD, et mon collègue, Emedi, qui est d'Ensemble pour la République. Mm-hmm. 2 sur 60, qu'est-ce qu'on va faire? Et au niveau de la grande plénière, les partis de l'opposition, nous ne sommes qu'à deux. Bon, je ne vais pas polémiquer, il y en a d'autres qui se considèrent de l'opposition, mais Ensemble pour la République n'a que 22 députés. LGD que nous sommes, nous n'avons qu'un seul député, votre interlocuteur. Donc, ce qui fait, tout compte fait, nous ne sommes qu'à 23 sur 500.
Donc,
qu'est-ce qu'on va faire?
Vous avez essayé de vous battre,
et
mais comme
là,
vous êtes minoritaire...
Nous n'allons pas nous donner des coups de poing, on fait un combat d'idées. Nous avons montré, nous avions dit à nos frères, à nos collègues de l'Union Sacrée, que ce soit au niveau de la commission PAJ, que ce soit au niveau de la plénière, que votre plan ici, il est contre la Constitution. Il faut abandonner. Ils n'ont pas voulu. Qu'allons-nous faire si ce n'est que de nous retourner vers le peuple? C'est comme ça que vous voyez, nous avons une campagne de sensibilisation du peuple congolais pour dire que nos frères ici de l'UDPS qui considèrent les pays comme leurs biens, ils ont dit que c'est le testament, ils doivent à tout prix accomplir la volonté des testaments qu'on les avait légués. Ils sont dangereux. C'est comme ça que vous voyez, nous nous sommes réunis autour de C64. C'est une structure politique qui a comme objectif de protéger tant soit peu la Constitution. C'est comme ça que nous appelons tout le peuple congolais, surtout ceux qui habitent Kinshasa, les 12, parce que ce n'est pas la voie pacifique. Nous faisons des manifestations pacifiques. On a appelé à la ville morte. Vous avez vu que c'était un succès total. C'était aller au-delà de notre attendement. Et les 12 ici, nous avons un sit-in au palais du peuple pour dire, au moins comme c'est passé au palais à l'Assemblée nationale, pour dire aux sénateurs, attention, vous êtes inscrits dans une logique, dans un plan macabre contre la République.
Et vous pensez que ça peut aboutir?
Bon, qu'est-ce que nous ne pouvons faire, M. Guy Maté? Nous n'allons pas prendre des armes. Les voies pacifiques que la Constitution nous offre, c'est notamment des manifestations pacifiques.
Donc, voilà.
Les sit-ins étant une manifestation pacifique, nous allons les tenir. Et dans les jours à venir, nous aurons des villes mortes, nous aurons des marches, et ainsi de suite.
Merci.
Donc, voilà.
Merci, Alidor Tshibanda. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN. Vous intéressez à l'État et à la démocratie. Quelle est, à vous également, hein, votre lecture, n'est-ce pas, de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi sur l'organisation du référendum en RDC?
Bon. Le premier point de vue, c'est que nous partageons le point de vue selon lequel cette loi vient combler le vide juridique.
Oui.
Mais je voudrais aider l'honorable. Il est revenu sur ça, même si peut-être qu'il y a eu un lapsus quand il dit que le matière n'était pas prévu, non. La loi ne vient pas prévoir les matières parce que les matières étaient déjà consacrées dans la Constitution. Donc, lui-même les a évoquées, l'article 2, l'article 214 et l'article 218. Les trois articles sont clairs et ils précisent dans quel cas on peut recourir au référendum. Donc, la loi référendaire qu'il fallait prendre devait prévoir les modalités d'exercice de cette compétence constitutionnelle. Je me fais comprendre. Donc, dire que la matière n'était pas prévue, c'est comme si on serait d'accord avec la loi référendaire actuelle, qui du reste, à première vue, semble être une loi qui consacre un pouvoir constituant originaire. Pourquoi je dis ça? Parce que la lecture et l'ouverture qu'elle donne, nous ne sommes plus dans la Constitution ici. Hein? Ne discutons plus en nous fondant sur cette Constitution. Parce qu'ils sont allés au-delà de ce que la Constitution a prévu. Or, quand on parle de la hiérarchie des normes, on ne peut pas avoir une loi qui viole la Constitution. Peut-être que lorsqu'on parle de l'audace du juge constitutionnel, il est le seul, peut-être, avec son audace, d'aller au-delà de ce que la Constitution a prévu. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il est le seul reconnu comme capable d'interpréter la Constitution et donner sens aux dispositions constitutionnelles qui ne semblent pas être bien comprises par les uns et par les autres.
Et à votre avis, en quoi cette proposition de loi viole l'actuelle Constitution?
Mais elle n'a pas. Quand elle dit déjà que on va aller au référendum sur les matières
non prévues,
comment la Constitution a prévu les matières? Le système juridique est clair dans le cadre constitutionnel. Il y a adduction du territoire ou déplacement de la capitale ou en cas de révision de la Constitution. Mais vous ajoutez d'autres matières qui ne sont pas prévues. Vous n'êtes plus dans la Constitution. La Constitution cesse en ce moment-là d'être la loi au-dessus de toutes les lois. Elle devient une loi qui peut être révisée même par un acte réglementaire. Nous sommes, constitutionnellement parlant, avec cette proposition de loi, dans ce qu'on appelle la fraude à la Constitution.
Ah, déjà on peut parler de la fraude.
Mais oui, il y a la fraude.
Tentative de fraude.
Non, non.
Le principe est clair, la fraude à la consommation. On donne l'impression d'avoir respecté la forme, d'avoir respecté la lettre, mais le fond de la Constitution est déjà éclaté.
Donc ça s'est fait de façon subtile.
Oui, c'est une tactique très subtile. On vous distrait et quand on vous dit l'article 5 de la Constitution garantit la souveraineté. Mais cette souveraineté s'exerce au sein de la Constitution. Et le pouvoir que le peuple détient, on dit qu'il l'exerce par référendum tel que prévu, dont les matières sont reconnues et prévues par la Constitution. Quand vous allez au-delà de ce que la Constitution a prévu, vous n'êtes plus dans les matières prévues par la Constitution et vous êtes en train de marcher sur la Constitution. Vous avez fraudé la Constitution.
Voilà.
C'est ça la technique de fraude à la Constitution. Les constitutionnalistes le savent. Et ils savent ce qu'ils ont fait avec cette loi-là.
Une autre dimension qui pousse les gens, n'est-ce pas, à se poser des questions, c'est cette la proposition de loi qui prévoit aussi la possibilité d'une assemblée constituante élargie en cas de projet de nouvelle constitution. Mais et dans cette constituante, on aura non seulement les sénateurs et députés nationaux, mais également les députés provinciaux, les gouverneurs des provinces et les conseillers municipaux. Alors, la question que les gens se posent, cette constituante aura quelle taille? Et comment, dans ces conditions-là, le travail sera-t-il fait?
Bon, je n'entre pas dans les détails d'ordre opérationnel, mais je dis seulement, restons dans le cadre de cette loi, j'ai dit, la loi a consacré la constituante. C'est-à-dire que cette constitution, nous devons commencer à apprendre à l'oublier, parce qu'il y a un pouvoir constituant originaire. Ce pouvoir n'est pas créé. D'après toutes les théories en matière d'élaboration de la Constitution, on dit le pouvoir constituant originaire, il se crée. Il s'auto-invite. Il n'est pas créé. Il est inconditionnel. Il est initial. Donc, contrairement au pouvoir constituant dérivé, qui devait être consacré par la Constitution, qui a pour mission, le pouvoir constituant dérivé n'est pas un pouvoir créateur, c'est un pouvoir correcteur. Je parle sous l'autorité de l'ouvrage du professeur Beauchamp pour ne pas citer les autres. La révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Il dit bien que le pouvoir constituant dérivé, c'est un pouvoir correcteur. Et on l'appelle dérivé parce qu'il est consacré dans la Constitution.
Cela veut dire quoi, professeur?
Ça veut dire que la Constitution prévoit, en tant qu'instrument juridique, en tant qu'œuvre humaine, cette constitution prévoit le mécanisme de son adaptation et de son amélioration. À tout moment où on sent qu'il y a un problème, on peut recourir au mécanisme. Il y a le président de la République, il y a le parlementaire, il y a la population qui peuvent initier.
Ça, c'est ce qui est prévu.
C'est ce qui est prévu.
Et la constituante?
Au-delà, la constituante, c'est le pouvoir constituant de création. C'est le pouvoir constituant originaire qui n'est ni créé.
Qui remplace quoi? Qui remplace
la constituante, c'est le pouvoir qui met en place une nouvelle constitution.
Ok.
Ça, c'est pourquoi on l'appelle le pouvoir constituant originaire.
Et donc,
il vient pour mettre en place ce qui n'a pas existé.
Et donc, la question que j'ai posée à l'honorable
Mandata,
on peut dire qu'avec l'adoption de cette proposition, les dés sont jetés,
on est déjà dans une démarche pour changer
la constitution.
Qu'on ne cherche pas à supputer, on a fraudé la Constitution pour nous engager dans le processus de mise en place d'une nouvelle Constitution. C'est plus clair.
Voilà.
Quelles sont les matières? Si la Constitution n'a pas prévu de matières, recourez à la Cour constitutionnelle, qu'elle interprète, qu'elle vous donne la possibilité d'actionner ces matières-là. Peut-être que la Cour constitutionnelle peut trouver des réponses dans la même Constitution. C'est pourquoi elle est établie comme la seule compétente en termes ou en matière d'interprétation de la Constitution.
Ok. Mais nous allons maintenant écouter les avis des auditeurs.
Je termine par dire, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on ne peut pas changer de Constitution, de ceux qui pensent qu'on ne peut pas toucher à la Constitution. J'avais déjà donné l'autre fois mon point de vue par rapport à cette Constitution, au regard des discours des politiciens.
Donnez-moi une minute, je termine par là.
Mais on pouvait, pour ne pas frauder, pour ne pas jouer au jeu de cache-cache, ouvrir le couloir et dire que nous mettons en place une constituante, voilà les mécanismes qu'il faut faire. Au lieu de jouer avec les termes, la loi
référendaire, ça aurait...
répondre sur la constitution.
Et là, ça aurait quelle base
juridique.
On
vous dit que le pouvoir constituant originaire n'est pas créé. Vous voulez qu'elle soit créée par la même constitution. C'est les jeux dangereux auxquels on nous expose.
Merci. On écoute maintenant les auditeurs. Honorable Patrick Matata, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la province du Tanganyika, Kalemi, province du Tanganyika.
Ali Moshaba Joseph Cicéron, avocat au barreau du Tanganyika, à Kalemi. D'entrée de jeu, il sied de rappeler que le référendum est l'une des voies permettant au peuple d'exprimer sa souveraineté que lui confère la constitution de 2006, telle que révisée à ces jours, en dehors de l'élection. Cependant, une question hante notre esprit au sujet de la nécessité substantielle de la loi référendaire pendant cette période de haute tension. Nous sommes fort convaincus, avec degré et élevé des certitudes, qu'il s'agit d'une initiative inopportune, car elle est faite dans les intérêts égoïstes, lesquels ne profiteront ni directement ni indirectement au peuple. Pourtant, dans de telles procédures, la volonté du peuple doit être une priorité. En outre, chercher les référendums pendant cette période, caractérisée par l'occupation de deux grandes provinces, signifierait que nos dirigeants acquiescent officieusement la balkanisation, car les référendums doivent concerner toutes les provinces sans exception. Merci.
Honorable Patrick Matata Makalamba.
Merci beaucoup de la question et des interventions des uns des autres et de notre frère Ali. Mais avant de revenir sur lui, je voudrais quand même souligner le fait que dans le cadre de la présente proposition de loi, l'Assemblée nationale a en fait signifié clairement que la proposition de loi a son fondement constitutionnel dans l'article 5 de la Constitution, qui dit clairement que tout pouvoir, j'insiste sur les mots tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection, ou indirectement par ses représentants. Dans le cadre de la présente...
Lorsque vous ajoutez cette disposition qui dit toute matière non prévue par la Constitution.
Mais nous sommes dans tout pouvoir, vous parlez de toute matière, c'est la totalité du pouvoir qui appartient au peuple. Et le peuple l'exerce à travers ses représentants. Les représentants du peuple vont se réunir en assemblée constituante. Ça va constituer effectivement le pouvoir constituant originaire. Qui va, lui, ce pouvoir constituant originaire, donner au peuple une proposition, un projet de constitution, si il en a besoin. Mais pour l'instant,
comme l'a dit le professeur Alidor, ne pas dire clairement qu'il s'agit d'une démarche, n'est-ce pas, qui vise à doter les pays d'une nouvelle constitution?
On peut organiser les référendums sur plusieurs matières. Donc, toutes les matières d'importance capitale peuvent faire l'objet de référendums. Et s'il est question de changer de constitution, il y a des mécanismes qui sont utilement prévus dans le cadre de cette proposition de loi. Je ne vois pas où se trouverait la tricherie, dès lors que ça ne sera ni le Congrès actuel, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat seul, ni un député particulier. Ça sera l'Assemblée constituante, composée non seulement des députés nationaux et des sénateurs, mais des députés provinciaux, des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces et des conseillers municipaux. Donc, c'est cet
ensemble...
Comment
vous en prévoyez les travaux d'une telle commission?
Il y aura une loi, un règlement intérieur qui va fixer l'organisation de tout cela. C'est possible. Mais si c'est la loi qui fixe les conditions d'organisation du référendum, le fonctionnement de la constituante, il y aura des dispositions qui seront fixées. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, notre compatriote Cicéron qui parle de la nécessité. Nous sommes dans le cadre de l'actuelle constitution. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans le pays. On peut bien vouloir attribuer cela à un individu, ou toujours on a tendance de dire c'est tel régime. Mais lorsque vous constatez sur une période de deux décennies qu'il y a des problèmes, il faut à un moment donné s'arrêter.
Hein, ça c'est Thomas Kuhn qui nous appelle quelquefois à changer de paradigme. On a un paradigme dont on voit le résultat. Après, il faut penser à un autre paradigme pour envisager un autre résultat. Sinon, nous continuons à exister dans le cadre du même paradigme, nous aurons le même résultat. Ça signifie l'accélération de la pauvreté, ça signifie l'instabilité des institutions, et ainsi de suite. Mais le peuple congolais peut appeler à réfléchir.
N'était-il pas possible d'envisager ces nouveaux paradigmes tout en restant dans l'actuelle constitution?
Bien sûr, nous sommes bel et bien en train de respecter l'actuelle constitution. Je vous ai rappelé que le fondement constitutionnel de cette nouvelle loi, c'est l'article 5 de la constitution. Cette personne est allée en dehors de cela. Et cet article prévoit...
Toute matière non prévue par la constitution.
Non, bien sûr. Non, on n'a pas dit toute matière non prévue par la constitution. Là, c'est une lecture biaisée. Voici ce que dit l'article 4, clairement. Le référendum peut être organisé sur toute matière d'importance fondamentale pour la vie de la nation, conformément à l'article 5 de la constitution.
On n'a pas prévu, hein?
On n'a pas dit, si,
vous
que toute matière non prévue par la constitution.
Non, ça, on n'a pas précisé.
C'est une...
Quand vous dites toute tricherie. Matière, vous ne précisez pas.
C'est conformément à l'article 5 de la constitution, la population, le peuple congolais et les souverains primaires, c'est lui qui exerce tout son pouvoir. Donc on n'a pas besoin de prévoir parce que c'est la totalité du pouvoir qui revient au peuple. Et le référendum, c'est effectivement consulter ces souverains primaires qui va s'exprimer. C'est là, Guy Matéla, les gens ne le disent pas trop. Mais les opposants, s'ils ont des... Puisqu'ils sont très forts, j'ai appris ici qu'ils ont organisé une journée ville morte. Bon, voilà. Ils pensent que ça a été une réussite. Très bien. Mais comme ils sont très forts, qu'ils préparent la population, si la population les écoute tel qu'ils sont en train de dire, mais la population va, ils vont faire campagne pour une option. Il y a l'option oui, il y a l'option non, ils vont vendre leur option. Au lieu de perdre du temps dans les démarches anticonditionnelles, genre d'aller faire les sit-ins devant les parlements, on ne fait pas les sit-ins devant les parlements. L'enceinte et les alentours du parlement sont inviolables.
Merci.
Donc je ne vois pas pourquoi on va aller dans ce sens. Bon, pour répondre à notre compatriote, on peut dire simplement ceci. Si nous prenons, la RDC est un grand pays et appelé à la grandeur. Si vous prenez les cinq grandes économies mondiales, les cinq grandes puissances, vous prenez les États-Unis, vous prenez la Chine, vous prenez le Japon, vous prenez l'Allemagne, vous prenez le Royaume-Uni, vous verrez que dans tous ces pays-là, le pouvoir est très clair entre les mains, soit du président élu, ici d'ailleurs souvent au suffrage universel indirect, donc il part des chambres par les délégués, ou soit entre les mains d'un premier ministre. Mais le peuple congolais peut se dire, mais nous voulons réfléchir sur ça. Qui va lui interdire de réfléchir
dans ce sens-là? On a compris.
Surtout que c'est le représentant.
Honorable Émile Assani, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga au Kassai Central.
Pensons au Kunjilang depuis Kananga au Kassai Central. La question liée au référendum, changement constitutionnel ou révision constitutionnelle revêt un caractère vital pour lever l'option à certains articles hostiles au développement, sécurité et diplomatie internationale pour la République démocratique du Congo dans l'ensemble. Les peuples attirent profit pour une paix durable. Dans les cas actuels en République démocratique du Congo, ce changement pour l'opposition est un tabou. Et pourtant, la même opposition, dans sa feuille de route, prévoyait les changements constitutionnels si jamais avait gagné les élections en 2023. Les peuples doit se prononcer universellement par oui ou non quant à ça.
Émile Assani.
Merci beaucoup. Je crois que je n'aurais pas tort de qualifier notre frère qui venait d'intervenir, de l'associer à un parti politique ou à un camp politique.
Il a donné son point de vue.
Vous avez compris que...
Vous ne pouvez pas être d'accord avec, mais c'est un point de vue, n'est-ce pas?
Il est d'un camp politique. En fait, il y a un camp qui a choisi, comme le professeur a dit, je vais les paraphraser, qu'on prenne la constitution, qu'on mette de côté. Parce que là, on ne parle plus de la constitution. Vous avez posé la question à l'honorable Matata. Vous avez compris comment il peine à donner des arguments. Il dit que c'est l'article 5, conformément à l'article 5. Est-ce que l'article 5 de la Constitution prévoit qu'on ajoute des nouvelles matières à soumettre au référendum, notamment les matières relatives au changement de la Constitution? Lisez l'article 5 de bout en bout, vous ne trouvez nulle part. Et aussi cet argument, en droit constitutionnel, pour comprendre une disposition, je ne suis pas constitutionnaliste, certes, mais je suis juriste, il faut l'associer avec d'autres dispositions de la Constitution. On doit associer l'article 5, on doit les lire en intelligence avec d'autres dispositions constitutionnelles. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique.
Voyez-vous, chercher à comprendre l'article 5 de façon isolée, c'est une démarche proscrite dans un droit constitutionnel.
Et donc, vous ne vous mettez pas d'accord sur l'interprétation de l'article 5 de la Constitution.
Et d'abord, est-ce qu'il revient à un député national d'interpréter la Constitution? Si pour eux, ils doivent insérer de nouvelles matières, pour eux, il y a également la question relative au changement de la Constitution. Mais poser la question à la Cour constitutionnelle, comme l'a si bien dit le procès à Lidor.
Et s'il faut répondre à notre auditeur qui intervenait...
Je voulais répondre à notre auditeur pour dire que moi j'ai toujours posé cette question. Est-ce que même l'honorable Matata qui est ici avec moi, mon co-débatteur de ce jour, on peut nous énumérer les dispositions constitutionnelles qui empêchent le développement du pays? Parce que même lui, il a repris la même chose. Et l'auditeur qui venait d'intervenir tout à l'heure, la même chose. J'aimerais, la Constitution n'a que 229 articles. À cette occasion, c'est une question, une problématique qu'on peut soumettre au peuple. Nous ne refusons pas de l'opposition, nous ne refusons pas qu'on réfléchisse sur l'amélioration de la Constitution. Mmh. En tout cas, moi, en tant que scientifique, c'est pas une question taboue. Mais réfléchissons tout en restant dans le cadre constitutionnel. Bon, comme ils disent, tantôt ils vous disent non, comme on a conclu les accords de Washington, on doit modifier la Constitution. Aujourd'hui, lui, il vous dit non, comme il y a dysfonctionnement des assemblées provinciales ou institutions provinciales, on doit changer la Constitution. Qu'on nous dise quelles sont les dispositions constitutionnelles qui empêchent au pouvoir en place de bien travailler, de bien servir la population. Comme ça, on se met autour d'une table, on sait au moins, et est-ce que même dans ces cas-là, il faudra procéder au changement de la Constitution? On peut envisager la révision, par exemple, et si c'est opportun.
Il va vous répondre. Professeur Alidor Tshibanda, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tshopo.
Je reste Ilonga depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tshopo. À mon humble avis, j'estime qu'il est inacceptable que cette démarche puisse aboutir. Pour un Congo uni, la majorité et l'opposition doivent se mettre autour d'une table pour un dialogue inclusif et national digne de son nom. Pendant que la majorité dit qu'il n'y aura pas élection en RDC, si les provinces de Nord et Sud-Kivu restent occupées par les ennemis de la nation, nous pensons qu'il ne serait pas aussi possible d'organiser un référendum sans ces deux provinces. Sinon, ça serait céder pour toujours ces deux provinces aux ennemis de façon officielle. Nous ne devons pas être derrière les intérêts personnels. Restons donc derrière les intérêts nationaux. Il s'agit ici de la vie de notre pays, la RDC.
Professeur Alidor Tshibanda.
Son point de vue est soutenable dès lors que s'il n'y aura pas d'élection en 2028, la raison majeure c'est qu'on ne peut pas organiser les élections en mettant de côté une portion importante de la population. C'est une conséquence logique qu'il n'y ait pas aussi référendum dès lors que cette portion de la population continue à être sous l'occupation. Ça, je partage son point de vue. Mais je reviens rapidement sur ce que l'honorable n'a pas pu retrouver dans la loi.
L'honorable Patrick Matata.
Patrick, oui. Je vais lire ici l'exposé des motifs, paragraphe 3. Inspiré tant par l'expérience législative congolaise que par les principes universellement admis, cette loi est, à ce jour, dépassée et inadaptée au contexte du moment, car elle visait essentiellement à permettre l'adoption au suffrage universel direct du projet de constitution devenu la constitution du 18 février 2006. En outre, elle n'a pas embrassé tous les objets du mécanisme référendaire. Or, le référendum tel que prévu par la nouvelle constitution ne se limite pas qu'au seul texte constitutionnel. Vous comprenez?
Mais c'est limite pas... Là, vous lisez les textes qui ont été adoptés hier à la
Oui. L'exposé des motifs. À moins qu'ils nous disent que ce que j'ai lu a été élagué.
Non, cette disposition concerne la loi référendaire de 2005.
Non.
Il ne concernait que l'organisation du référendum constitutionnel. Voilà. Et c'est limité là.
Je descends, oui. Honorable. Or, le référendum tel que prévu par la nouvelle constitution, donc la constitution du 18 février 2006, ne se limite pas qu'au seul texte constitutionnel. Hein, nous parlons quand même français.
Mais c'est clair.
Plusieurs autres matières d'importance fondamentale pour la vie de la nation
peuvent être soumises à la consultation du peuple. D'où la nécessité d'élargir l'objet du dit référendum et de fixer les conditions de son engagement.
Et c'est là que les choses...
Je voudrais dire que l'exposé des motifs traduit l'esprit du texte. Mm-hmm. La philosophie même qui dicte l'adoption ou la promulgation de cette loi. Mm-hmm. Et il sous-entend quoi? Quel est l'esprit qui guide l'élaboration de ce texte? C'est de consacrer, comme je l'ai dit, la constituante pour une nouvelle constitution, pas celle-ci. Quand on revient sur l'article 5, je l'ai dit, ça c'est la troisième fois que je le répète. Il m'a prêté des termes, je ne partage pas avec lui tous les points de vue, il m'a prêté les termes. Quand nous voulons comprendre, c'est, on dit ceci, la souveraineté nationale appartient au peuple. Même la démocratie, quand on l'a définie, nous disons, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça voudrait dire quoi? Le peuple peut l'exercer directement comme indirectement. Et la loi est claire, ou la constitution. Elle dit, le peuple exerce cette souveraineté directement par référendum. Et le référendum prévu, dont les matières sont prévues par la constitution. Dès lors que nous sortons de ces matières-là, parlons d'une autre constitution. Pas
voilà, professeur, nous tendons vers la fin parce qu'on n'a pas tout le temps. Hein, on tend vers la fin de l'émission.
Parce que,
maintenant, vous, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous proposerez face à ces débats qui oppose l'opposition ainsi que la majorité?
Moi, mon point de vue, vous le connaissez déjà. Mon point de vue, vous le connaissez. Je ne suis pas... Cette constitution présente des faiblesses parce que c'est une œuvre humaine. Mmh. Nous voyons comment les institutions fonctionnent.
Et maintenant, il faut faire quoi?
Nous voyons comment... vécu ici une, ce qu'on a appelé accord cash et quoi? Cash et FCC. On a appelé ça coalition. Moi, dans mes écrits, cohabitation, coalition. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que nous avons vu que les uns et les autres n'arrivaient pas à émettre le même point de vue. Donc, nous n'étions pas dans la cohabitation, nous étions dans la coalition.
Vous
et dans la
quoi,
coalition, nous étions dans la cohabitation.
Proposition, vous proposez
donc, quoi? Ma proposition, si on veut nous amener à une nouvelle constitution, moi, je ne vois pas le problème. Les constitutions, nous, en tant que politologues, nous les considérons comme des instruments de domination par les
donc
acteurs.
Donc, vous ne voyez pas le problème. Il faut faire comment maintenant? Il faut procéder comment?
Il faut respecter la procédure. Qu'on convoque carrément la constituante et on va tout droit au but. Qu'elle joue avec le jeu,
merci.
Avec les raccourcis.
Merci,
qui nous
professeur,
rien,
professeur Matata. Professeur Baptiste Matata Makalamba, votre mot de la fin. Nous sommes à la fin de la fin.
Merci beaucoup. Ce que mon co-débatteur est en train de dire tout à l'heure, c'est ce qui est fait. L'actuelle proposition de loi ne se limite pas seulement au projet de la Constitution. Ça signifie que réviser, changer les constitutions, c'est une matière. Et toutes les autres matières d'importance capitale pour la nation en font partie. Mais s'il est question de changer de constitution, on prévoit une large consultation par le président de la République, des acteurs institutionnels et non institutionnels, qui vont, si léchés, produire un projet que l'Assemblée constituante maintenant va mettre en œuvre.
Merci.
Et après, c'est le peuple qui, au référendum, va dire s'il est d'accord ou pas.
Merci.
Donc nous sommes dans l'expression d'une démocratie qu'on n'a jamais connue par le passé.
Merci, honorable Mili Hassani, votre mot de la fin.
Merci beaucoup. Je crois que le professeur Alidoro a bien commencé, mais malheureusement, il avait mal conclu.
Votre conclusion.
Vous avez compris que ce soit les auditeurs, ils ont compris que nos frères ont décidé d'agir en dehors du cadre constitutionnel. Parce que la Constitution, et c'est là un moment de la fin, la Constitution ne prévoit pas une manière de la changer parmi les matières à soumettre au référendum. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, écoutez, nous faisons notre part. C'est ce que j'ai dit en m'adressant à la population. Nous faisons notre part, c'est en les sensibilisant, en les alertant. Que nos frères qui sont au pouvoir, ils ont un plan macabre contre la République.
Merci.
Faisaient qu'ils fassent leur part, autant nous faisons notre part.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Oui, allez-y.
Je dis seulement ceci pour conclure. Le changement, ça dépend des acteurs, mais le contexte doit être prise en compte et c'est très capital.
Merci à Patrick Matata Makalamba qui est venu au studio, Emile Assani et Alidor Chibanda d'avoir accepté, n'est-ce pas, de faire des déplacements ici au studio. Merci à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci aussi à Dona Madimba et Benjamin Boudoumbi qui l'ont réalisé, Pierre Diassinois et Alain Ngoy qui est à la technique, et Chembe Loku qui a assuré les lives de cette émission. Merci aussi à Grace Amzati qui a contribué à la production de cette émission, à la présentation Guimaté. Merci encore et bon suite au programme sur Radio Okapi.